Nous en sommes au troisième jour de la retraite. Et j'aimerais aujourd'hui lire et commenter le Koan 96 du deuxième livre du Shinji Shobogenzo de Maître Dogen. Le Koan se lit comme suit. Un moine demanda au Maître Rouge. Lorsque les anciens maîtres se sont éveillés, qu'ont-ils obtenu? Le maître répondit, « C'est comme un voleur qui entre dans une maison vide. » Ce koan traite évidemment de l'éveil et de la transmission entre les maîtres zen et leurs élèves. Lorsqu'il évoque la nature de cette transmission, Bodhidharma, le premier patriarche du zen en Chine, écrit une transmission spéciale, en dehors des Écritures. Aucune dépendance vis-à-vis des mots et des lettres. Se tourner directement vers le seul esprit. Contempler sa propre nature. Rappelez-vous aussi le sixième koan du Mumonkan, dans lequel le Bouddha, venu pour prêcher au pic des vautours, levant en silence une fleur, devant tous ceux et celles qui s'étaient assemblés pour l'entendre. Tous demeurèrent silencieux, sauf le vénérable Mahakashyapa, qui sourit. Le bienheureux dit alors, « Je détiens le trésor de l'œil de la vraie loi, l'esprit profond du nirvana, l'enseignement exquis de la forme sans forme, la porte subtile du dharma. Ils ne dépendent pas des mots et des lettres. C'est une transmission spéciale, en dehors des Écritures. Je les confère maintenant à Mahakashyapa. » Qu'est-ce qui a été transmis ou conféré entre le Bouddha et Mahakashyapa? L'on nous dit que cela ne dépend pas des mots ou des lettres, et que cette transmission se fait en dehors des Écritures. Dans un autre koan, un gouverneur demanda au maître Ungo. Il est dit que le bienheureux transmit un message secret en tenant la fleur, et que Kashyapa, en souriant, ne l'a pas caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Gouverneur, s'écria Ungo. Oui, maître, répondit le gouverneur. « Avez-vous compris ? » demanda Ungo. Le gouverneur répondit non. Alors Ungo lui dit, « Si vous ne comprenez pas, cela montre que le bienheureux a transmis un message secret. Si vous comprenez, cela veut dire que Kashyapa ne l'a pas caché. » Le moine qui visite le maître Rouge demande, « Lorsque les anciens maîtres se sont éveillés, qu'ont-ils obtenu? » Il veut lui aussi savoir si quelque chose a secrètement été transmis, quelque chose qu'il pourrait un jour lui-même recevoir, apprendre ou découvrir d'une manière ou d'une autre. Dans le Koan 22 du Mumonkan, l'on trouve le dialogue suivant. Ananda demanda à Kashyapa, le bienheureux vous a transmis la robe et le bol. Vous a-t-il transmis quelque chose d'autre? Kashyapa l'appela, Ananda. Oui, répondit-il. Renversez le mât devant la porte du temple, ordonna Kashyapa. En ordonnant que l'on renverse le mât devant la porte du temple, Kashyapa signale qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Ananda, qui fut l'assistant du Bouddha pendant plus de 25 ans sans jamais s'éveiller, vient de percevoir sa vraie nature. Ce koan fait le récit de son éveil. Et le moine demande à Maître Rouge, qu'a-t-il obtenu? Nous voulons être uniques. Pour la plupart d'entre nous, Il s'agit là d'un désir secret que nous gardons profondément enfoui en nous-mêmes. Est-il donc étonnant de constater, comme le souligne M. Lowe, et je cite, que beaucoup de gens s'engagent dans le zen, espérant avoir enfin trouvé le moyen par lequel ils pourront découvrir à leur propre satisfaction et à celle des autres qu'ils sont exceptionnels. Fin de citation. Au début de notre pratique, les maisons vides n'ont aucun intérêt à nos yeux. L'on pratique pour obtenir quelque chose. L'on veut meubler sa vie avec des choses nouvelles, y mettre de l'ordre, changer quelque chose. Au début, notre pratique est presque toujours intentionnelle, c'est-à-dire au service des objectifs que l'on se fixe d'atteindre. L'on est préoccupé de comprendre les méthodes du zen, ce que l'on doit faire pour progresser, sinon vers l'éveil, du moins vers une vie meilleure. Dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. Car quelque chose doit être fait, n'est-ce pas, pour que je puisse atteindre ce que je cherche. Dites-moi simplement ce que je dois faire, et je le ferai. L'on pratique avec l'ambition sincère et même ardente d'arriver quelque part, de changer quelque chose, de trouver plus de joie peut-être, ou de réparer des blessures. Malgré notre sincérité, toute notre pratique reste néanmoins au service de ce désir secret d'être unique que nous gardons profondément enfoui en nous-mêmes, parfois si profondément que l'on en ignore même l'existence. Comme l'écrit Hubert Benoît dans son livre « La doctrine suprême », l'être humain croit en l'utilité de son agitation, parce qu'il ne pense pas être autre chose que ce moi personnel dont il a la perception en mode dualiste. Il ne sait pas qu'il y a en lui quelque chose d'autre que ce moi personnel visible, quelque chose d'invisible qui travaille en sa faveur dans l'obscurité. Plus notre pratique progresse, plus l'on s'ouvre à ce quelque chose d'invisible qui travaille en notre faveur dans l'obscurité. L'on ne peut ni forcer ni hâter cette ouverture. Il ne sert à rien de la chercher ou de la transformer en un quelconque objectif à atteindre. Elle viendra d'elle-même, en son propre temps, comme un fruit mûr. Il ne faut rien forcer. Plus on cherche à l'atteindre, plus on s'en éloigne. Puis-je vous inviter à avoir foi dans l'idée qu'ici même, dès maintenant, dans ce zendo, sur cette natte ou cette chaise où vous êtes assis depuis maintenant 3 jours, avoir foi dans l'idée que votre bien suprême est en train de s'élaborer spontanément. Nous n'avons pas à travailler directement notre libération, comme le dit encore Hubert Benoît. Nous avons seulement à y collaborer en pensant au travail profond qui nous libère, en nous rappelant que ce que nous cherchons du plus profond de nous-mêmes est déjà en train de s'accomplir ici même. Dans les termes traditionnels du bouddhisme, le zen porte sur les 3 caractéristiques de toute existence, soit l'instabilité, l'impermanence et l'absence d'un soi séparé. Avec le temps, l'on en vient à voir que tout ce sur quoi l'on médite est ainsi. Comme nous le rappelle notre ami Jeff Shore, même les états les plus profonds de l'esprit sont instables, impermanents et sans substance. Où notre méditation commence-t-elle? À partir d'où? Du moment présent, simplement. Voyez le koan de l'ici et maintenant tel qu'il se manifeste. ou soyez attentif à la respiration, la présence immédiate de votre respiration. Ou soyez attentif à une douleur dans le genou ou à un pas que vous faites. Ces pratiques ne créent rien et n'ajoutent rien. Vous n'avez pas à vous remémorer ni même à réaliser quoi que ce soit. Seulement être présent à ce qui est déjà là. Rien de plus, rien de moins. C'est là tout ce dont vous avez besoin. Comme le dit Maître Dogen, n'ayez pas l'intention de devenir un Bouddha, et encore moins celle de vous attacher à être assis et immobile. Votre condition présente suffit. Vous n'avez pas à être dans une autre condition pour pratiquer. Fin de citation. Il n'y a rien que l'on puisse saisir. Nos pensées s'écoulent, tout comme les sensations que nous éprouvons ou les émotions qui nous traversent. Les situations changent sans cesse, tous les événements s'évanouissent. Et comme nous le dit Jeff, même les états les plus profonds de l'esprit sont instables, impermanents et sans substance. Le moine demande. Lorsque les anciens maîtres se sont éveillés, qu'ont-ils obtenu? Maître Ryuge répond, c'est comme un voleur dans une maison vide. Tous les dharmas sont instables, impermanents et vides d'un soi séparé. Même les états les plus profonds de l'esprit sont instables, impermanents et sans substance. Croire que la pratique du zen puisse un jour nous permettre de découvrir autre chose n'est qu'un rêve. Et ce rêve vient s'ajouter à tous nos autres rêves. Notre rêve d'être quelque chose, un être unique, séparé et distinct de tous les autres, doté d'un destin particulier ou d'une mission exceptionnelle. Lorsque les anciens maîtres se sont éveillés, ils n'ont ni obtenu, ni perdu la moindre chose. Ils se sont simplement éveillés au rêve. Rappelez-vous ces quelques mots du Sutra du cœur, le Prajnaparamita que nous chantons chaque jour. Les dharmas aussi sont vides, tous sont le vide originel. Il n'y a nulle sagesse à atteindre. Même la connaissance est vide. Nous vivons dans un univers de mots, et c'est ce qui rend tout cela si difficile à saisir. Dans l'univers des mots, les choses semblent si réelles, si solides, et elles existent nettement séparées les unes des autres. Ludwig Wittgenstein, un philosophe du XXe siècle qui s'est intéressé au langage, disait par exemple que si vous dites que ceci est une main, alors on vous accorde tout le reste. Que voulait-il dire? Simplement que si ceci est une main, alors cela, le plancher du zendo, l'autel, ma chemise, est autre chose. Et toutes ces autres choses doivent être nommées à leur tour, créant ainsi un univers de choses nommées. Un monde apparaît, dans lequel une main est toujours une main, une table toujours une table, un zendo toujours un zendo. Ce monde a quelque chose d'absolu. Il paraît solide, permanent, inaltérable. Dans ce monde, je suis moi, et le monde est en dehors de moi, tout comme ceux et celles que j'y côtoie. Où y a-t-il de la place dans ce monde de choses nommées pour l'instabilité, l'impermanence et l'absence de tout soi séparé dont parle le zen? Dans un tel monde, l'on peut se sentir en sécurité. L'on sait qui on est, d'où l'on vient. On possède un nom, une famille, un pays, une citoyenneté, un monde même, un univers ordonné où chaque chose trouve sa place. C'est une merveilleuse création de l'esprit humain. Grâce au langage, nous pouvons étudier le monde, l'analyser, en discriminer les moindres nuances, prédire et contrôler les événements. L'on croit savoir qui l'on est et connaître le monde. Mais il y a un prix à payer pour tout cela. C'est de vivre dans un monde privé de sens et d'unité, un monde fragmenté en millions de pièces séparées, un monde dans lequel il devient impossible de recoller les choses ensemble, un monde dans lequel chacun de nous est un minuscule point de vie dérivant dans un univers infini, coupé des autres et du monde. Est-il étonnant, dès lors que nous cherchions la vérité à l'intérieur des mots? Nous n'avons rien d'autre. Pour nous, le monde et la vie sont enfermés dans les mots, et nous croyons que la vérité s'y trouve. Si vous dites que ceci est une main, alors on vous accorde tout le reste, dit le philosophe. Comparez cela au maître Zen qui dit, « Si vous dites que ceci est une main, je vous donne 30 coups de bâton. Si vous dites que ce n'est pas une main, je vous donne 30 coups de bâton. » Alors, qu'est-ce que c'est? Lorsque le moine demande à maître Ryuge, lorsque les anciens maîtres se sont éveillés, qu'ont-ils obtenu? Ils cherchent quelque chose que l'on peut enfermer dans les mots, quelque chose que l'on peut comprendre, une connaissance que l'on peut formuler, une vérité que l'on peut saisir. Et comme le disait le maître Issan à Kyogen, qui le suppliait de lui révéler l'essence du zen, le maître Ryuge aurait pu dire au moine qui l'interrogeait, « Je n'ai vraiment rien à te donner. » La vérité si proche, nous la cherchons si loin, nous dit Maître Quinn. Nous la cherchons dans l'univers des choses nommées, là où on ne peut trouver que des mots. Or, nous le savons tous, le mot feu ne brûle pas, le mot sucre ne goûte à rien. Dans le mot moi, il n'y a personne. Et dans le mot monde, il n'y a aucun monde. Voyez-vous, il n'y a aucune vérité dans le mot vérité. Maître Eckhart, qui était théologien et l'un des grands mystiques allemands du XIIIe siècle, disait « Je prie Dieu de me libérer de Dieu. » Il priait Dieu de libérer son esprit de la moindre idée de Dieu qui pouvait s'y trouver, disant que s'il gardait en tête une telle idée, c'était comme préserver une chambre secrète où Dieu lui-même ne pouvait pénétrer. Lorsque Maître Ryuge répond au moine qui l'interroge, c'est comme un voleur dans une maison vide. Il lui montre avec compassion que tant qu'il cherchera à trouver quelque chose, tant que son esprit sera en quête de la moindre chose, il sera comme un voleur tournant désespérément en rond dans une maison où rien ne se trouve, essayant désespérément d'y trouver quelque chose. Tant qu'il voudra se trouver lui-même, il devra d'abord porter le lourd fardeau d'être lui-même quelque chose. Comment pourrait-il alors voir que la maison est vide et qu'il pourrait s'y reposer? Un jour, un moine demanda à Maître Ryuge, « Lorsque les anciens maîtres se sont éveillés, qu'ont-ils obtenu? » Le maître lui répondit, « C'est comme un voleur dans une maison vide. »